La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Au troisième jour de notre série, nous continuons aujourd'hui à arpenter la lande venteuse où vivait la fratrie Brontë. Ils étaient quatre enfants aux dons exceptionnels, jetés très tôt dans un tourment de deuil et qui ont trouvé dans les jeux et l'imagination les moyens de leur liberté, quitte à se brûler à force de délaisser le réel. Leur destin à tous les quatre est presque aussi romanesque que les cinq œuvres qu'ils ont produites, destin dont nous avons parlé lundi dernier, c'était avec Dominique Jean. Mardi, deux romancières se sont succédées à ce micro pour évoquer Émilie Brontë et surtout son grand livre « Les Hauts de Hurlevent », considéré comme le chef-d'œuvre de la fratrie. Il s'agissait de Lydie Salver et de Christine Jordis. Vous pouvez réécouter cette émission comme toutes les autres grâce au podcast. Enfin, demain, nous reviendrons en particulier sur les écrits de jeunesse, ces fameux jeux d'enfants qu'on peut en réalité considérer comme la source des romans de maturité des sœurs Brontë. Raymond Bellour, qui les a édités, viendra nous dire comment ces textes ont été rédigés. Et aujourd'hui ?
On day one, I was looking through my pockets for the keys. On day two, there I found them hanging quietly from the door.
Aujourd'hui, après Émilie, nous parlons de Charlotte Brontë et de son grand roman Jane Eyre. Nous en parlons avec la romancière Dominique Barberis, auteur de L'heure exquise, publié à l'Arpenteur en 1998, ou encore de Quelque chose à cacher chez Gallimard en 2007. Gallimard, où elle a publié également Beau rivage en 2010 et La vie en marge en 2014. Mais si nous la recevons aujourd'hui, eh bien c'est surtout évidemment pour sa préface au roman Jane Eyre, publié en 2012 dans la collection Folio. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
Wearing me out like a name on a tab.
Le curieux est que les Hauts de Hurlevent, qui sont à présent considérés comme un des chefs-d'œuvre du roman lyrique, tombèrent au moment de leur publication dans un puits d'indifférence, tandis que Jane Eyre provoqua une véritable commotion, même pour Charlotte, le presbytère de Haworth est la fontaine de toute chose. Une fontaine de vie qui, bien entendu, procède elle-même du père, sans lequel le caractère des trois filles et du fils serait incompréhensible.
Bonjour Dominique Barberis.
Bonjour.
C'est curieux en effet, comme le disait dans cette archive le professeur Raymond Lasvernias, que eh bien, Les Hauts de Hurlevent n'est connu qu'un succès médiocre au moment de sa publication, alors que Jane Eyre était un succès. Or, on considère en général que Les Hauts de Hurlevent est au-dessus de Jane Eyre. Pourquoi, selon vous, cette inversion, finalement, dans le regard que l'on porte à posteriori
dans la réception qu'il y a eu du roman? Alors, ça peut se comprendre peut-être que Jane Eyre est un roman plus romanesque que Les Hauts de Hurlevent.
C'est-à-dire un roman plus romanesque.
Un roman plus romanesque dans la mesure où il est construit autour d'une narration plus suivie. C'est un roman dans lequel tous les ingrédients du roman se retrouvent. C'est un roman de formation. L'histoire d'une jeune femme qu'on prend depuis qu'elle est petite fille jusqu'à son mariage. C'est aussi un roman qui est fondé sur un suspense haletant, d'une certaine manière, qui est maintenue, une espèce de tension qui est maintenue tout au long du livre. Et je pense que la poésie qui s'y trouve, et qui, à mon sens, n'est pas moins grande que celle qu'il y a dans
Les Hauts
de
Hurlevent,
est plus fondue à la matière romanesque. Elle voisine peut-être avec un sens du concret, un sens prosaïque qui est plus marqué chez Charlotte probablement que chez Émilie. Je crois que Charlotte compose davantage avec le monde, et dans ce roman elle compose aussi davantage avec la tradition du roman, et je pense que tout ça a dû favoriser, il y avait peut-être une étrangeté plus grande par rapport au roman d'Émilie, dans lequel les fulgurances poétiques sont comme ça dispersées, il y a quelque chose de moins facile à peut-être d'accès. J'ajoute que le personnage, ça se voit très bien dans les personnages masculins, il y a des parentés entre Heathcliff et Rochester, mais Rochester est un personnage qui est plus crédible, qui est plus aimable, on va y revenir, mais qui est plus inscrit dans la réalité du monde. C'est un châtelain, bon, Heathcliff, il sort de nulle part, c'est une espèce de tigre amoureux, ça n'a rien à voir.
Alors, ce qui fait que l'aura autour des Hauts de Hurlevent est supérieure, ce serait finalement son côté peut-être davantage expérimental, littérairement parlant, si l'on peut dire, et puis aussi ces personnages qui sont moins ancrés dans la vie et qui sont peut-être plus mythologiques. Effectivement, Heathcliff, on ne sait pas d'où il vient d'une espèce de lointain très profond.
Oui, il y a
ça
une
lui
espèce...
donne un caractère particulier.
Il y a une espèce de radicalisme, ça se passe dans la lande, ça se passe dans un espace qui est coupé du monde. Jenner se passe, finalement, suit un itinéraire qui traverse l'histoire d'une jeune femme.
À laquelle on peut s'identifier, peut-être
à laquelle,
que ça joue.
Voilà, à laquelle on peut s'identifier. Et une des forces aussi du roman de Charlotte Brontë, c'est qu'elle invente cette première personne, ou qu'elle met en scène cette première personne, cette voix dont on devine qu'elle est très proche, et dont on mesure, quand on lit ce qu'on a pu conserver de ses lettres, qu'elle est très proche de sa voix propre, et qui va permettre aux femmes, en majorité je pense, de s'identifier, qui fait qu'on la suit. C'est une voix qui est très véhémente, qui est très passionnée, à travers laquelle elle apostrophe le lecteur, elle le somme de prendre son parti, elle lui expose les injustices dont elle est victime, et tout ça évidemment fait, comme l'ont dit d'ailleurs les premiers critiques, qu'on est un peu forcé d'être son ami. Il y a une espèce de relation qui s'instaure et qui fait qu'on la défend, qu'on la comprend et qu'on va la suivre.
Voilà, il y a beaucoup de choses à développer dans ce que vous venez de dire. Vous reprenez une phrase d'Annie Arnaud à son propos. « Nous lisons à travers elle ». C'est au fond un bon résumé de ce que vous venez de dire, Dominique Barberis.
Oui, alors bien sûr, nous lisons à travers elle. Alors, on voit très bien ce qu'Annie Ernaux peut lire à travers Jenner. C'est une femme qui se révolte, c'est une jeune femme qui se révolte et qui va défendre d'une certaine manière, c'est une féministe, avant l'heure, il y a des traces de féministe, elle va défendre un statut de la femme qui n'est pas le fait de rester à la maison, elle le dit d'ailleurs, de coudre, de voilà, elle rêve des orages, hein, elle rêve d'une vie tumultueuse au fond, comme les hommes. C'est une femme pauvre à qui aucun destin n'est proposé, comme c'était le cas dans l'Angleterre de l'époque, sauf le destin de gouverneur qui a été celui des Brontë, donc un destin humiliant dont elle ne veut pas. Et tout au long du roman, on voit Jenner s'affronter aux hommes. Toutes les grandes parties du roman voient une confrontation avec un homme qui cherche à la servir, qui cherche à l'enfermer. Ça va être à Lowood, quand elle est pensionnaire dans cet orphelinat terrible où elle résiste. Ça va être d'une certaine manière à Thornfield, où lorsque, et bien qu'elle l'aime, Rochester va lui proposer une situation fausse, c'est-à-dire d'être sa maîtresse. Elle va néanmoins résister et s'enfuir. Et c'est le cas aussi dans le dernier épisode avec le pasteur St. John Rivers, quand il essaie, armé du magistère de la foi, puisqu'il est pasteur, de la contraindre à partir avec lui en Inde, elle résiste. Donc c'est une femme qui résiste.
Et vous-même, alors, à quel moment avez-vous découvert ce récit que j'imagine vous avez dû relire pour le préfacer, mais ce n'est peut-être pas la première fois que vous l'aviez.
Non, c'est un roman qui m'accompagne depuis fort longtemps, que j'ai lu probablement très tôt, vers 12-13 ans. Et je pense que c'est un livre aussi, ça aussi c'est un de ses atouts, qu'on peut lire à toutes sortes d'époques. C'est un roman qui peut parler à une fillette. On prend Jenner au moment où elle est fillette et où elle est victime de l'injustice. Elle est orpheline, elle n'est pas aimée. Ses cousins sont favorisés. Elle est enfermée dans une chambre, elle est punie. Et donc je pense qu'il y a un premier niveau de lecture qui fait qu'une enfant jeune peut s'y identifier.
Alors justement, plongeons dans ce premier niveau de lecture avec, pour illustrer votre propos, la scène justement où Jenner est enfermée dans la chambre rouge.
La chambre rouge était une chambre inoccupée où l'on couchait rarement. C'était pourtant une des plus grandes et une des plus belles pièces du manoir. Un lit à lourdes colonnes d'acajou tendu d'un baldaquin de damas rouge foncé en occupait le centre. Les deux grandes fenêtres, dont les stores restaient toujours baissés, disparaissaient derrière des festons et des drapés de même tissu. Le tapis était rouge, la table au pied du lit couverte d'une toile pourpre, les murs d'une couleur fauve pâle avec une touche de rose. Cette pièce était glacée car on y faisait rarement du feu. Elle était silencieuse, se trouvant à bonne distance de la nurserie et des cuisines, solennelle car on savait qu'on y entrait peu. Mr. Reed était mort 9 ans plus tôt. C'était là qu'il avait poussé son dernier soupir, là que sa dépouille avait été exposée, de là que son cercueil avait été emporté par des croque-morts, et depuis ce jour, un sentiment de consécration lugubre avait protégé ce lieu de fréquentes intrusions. Je n'étais pas tout à fait certaine que Bessie et Miss Abbott eussent fermé la porte à clé, et quand j'osais bouger, j'allais vérifier. Hélas, oui, jamais prison n'avait été plus sûre. Pour revenir, je dus passer devant le miroir. Mon œil fasciné explora involontairement les profondeurs qu'il révélait. Tout avait l'air plus froid et plus sombre que la réalité dans ce creux plein de vision. Aussi, la curieuse petite silhouette qui m'y regardait, avec son visage et ses bras blancs trouant les ténèbres et ses yeux luisants de leur peur, bougeant là où tout était immobile, me fit l'effet d'un véritable spectre. Je la pris pour un de ces minuscules fantômes mi-fées, mi-gnomes qui, dans les histoires que Bessie racontait le soir, sortaient de vallons isolés, envahis de fougères au milieu de la lande et apparaissaient aux voyageurs attardés. Mon sang bouillait.
C'était la compagnie des auteurs sur France Culture et vous avez reconnu bien sûr Guillaume Gallienne qui lisait à l'instant un extrait de Jenner, Dominique Barberis. À quoi vous fait penser cet extrait quand vous le réentendez ?
À quoi ça me fait penser par rapport à la lecture du roman ? Évidemment, c'est la première illustration de cette présence du surnaturel qui est constante tout au long du roman. Il y a sans arrêt des scènes ou des créatures un peu fantastiques, même Rochester, quand il arrive, un cavalier comme ça, dans la nuit.
Parce que là, il va y avoir un fantôme qui va faire que la petite fille va s'évanouir.
Oui, voilà. C'est vrai que donc c'est un des aspects qu'on voit revenir dans le roman. Et puis il y a aussi cette scène autour du dédoublement. Elles se regardent. On voit ça très souvent aussi dans le roman. Et puis surtout, ce qui est très remarquable et ce qui est un des aspects très fascinants dans le roman, c'est cette présence de la mort. Il y a une dimension très lugubre qu'on entend très bien. Et au fond, je crois que c'est ce qui caractérise Jenner. Il nous pousse au bord un peu mystérieux du monde, c'est-à-dire il rappelle le roman rappelle sans arrêt cette présence de la mort.
Donc il y a la présence de la mort, et en même temps on est quand même dans une certaine contemporanéité. Est-ce que vous diriez, Dominique Barberis, qu'avec ce roman on est dans l'intemporel ou est-ce qu'on est quand même ancré dans une époque ?
On est dans un conte. Il y a une dimension de conte. C'est une scène qui tient du conte. Je ne trouve pas... Bon, on est ancré évidemment dans le 19e siècle parce qu'il y a une certaine pratique de l'éducation. On enferme les enfants, on les punit. C'est vrai. Mais je pense que la scène échappe à tout ça pour s'inscrire dans un terreau beaucoup plus mythique. Hein, elle nous renvoie à des angoisses très très fondamentales et une angoisse qui traverse tout le roman, qui est l'angoisse de l'enfermement.
Et c'est peut-être ça qui va rendre tout de suite très populaire ce roman qui, au fond, parle à tout le monde, aujourd'hui encore, mais déjà à l'époque.
Oui, qui parle à l'enfant que les gens continuent à être. Et il y a d'ailleurs, chez le personnage de Jenner, même adulte, elle reste d'une certaine manière une enfant. Le texte insiste sans arrêt, elle est très menue, elle est très fragile, elle est comparée à un oiseau, à un elfe. Dans ses relations avec Rochester, il la prend sur ses genoux comme une enfant. Il se prétend le berger, alors une image qui vient de la Bible, mais il est aussi un peu le père. Et cette composante, elle est maintenue tout au long du roman.
Alors, il paraît que la reine Victoria avait beaucoup aimé ce livre.
Oui, ouais. Oui, c'est étonnant, hein, puisque c'est un livre qu'on a pu inscrire un peu au procès, finalement, de l'époque qu'elle représente, qui dénonce, d'une certaine manière, la condition faite aux femmes à une époque où l'homme est le maître. Et je crois qu'il y avait un livre qui était sorti...
Mais la reine était une femme, quand même.
Voilà, alors la reine était une femme, ce qui veut dire qu'elle... Elle pouvait y être sensible, comme toute femme.
Et oui. Un livre merveilleux, disait-elle, très étrange par endroits, mais admirablement écrit, avec une telle puissance, un ton si subtil, un sentiment si religieux. Alors, peut-être pourrait-on raconter un petit peu l'histoire quand même, Dominique Barberis. On a commencé à dire que tout s'ouvrait sur la vie de cette jeune fille qui est maltraitée par une tante qui ne l'aime pas. Elle est ensuite pensionnaire à l'institution. L'institution, c'est un orphelinat à Lowood où l'on affamait, on terrorisait les fillettes pauvres. Et elle n'a qu'une façon de s'en sortir, c'est donc de devenir gouvernante au château de Thornfield où elle va rencontrer l'inquiétant mais irrésistible Rochester qui la séduira, qui l'aimera sans doute, mais qui échouera à l'épouser. Ça vous convient comme résumé ou vous voudriez insister sur un point ou sur un autre ?
C'est un peu court, mais en gros, effectivement, c'est ça. L'épisode de Thornfield est un épisode...
Thornfield, c'est le nom du château. Hein.
Voilà, c'est le nom du château. Elle y est recrutée comme gouvernante, mais au début, y a tout de suite un mystère qui entoure Rochester parce qu'il n'est pas là.
Et elle est le maître de maison. Hein.
Voilà, elle est supposée, elle est accueillie par une femme qui est la femme de charge, Mrs. Fairfax, et elle est supposée s'occuper de sa pupille. On découvrira que la pupille est en réalité la fille naturelle de Rochester. Et Rochester va surgir de manière extrêmement spectaculaire une nuit, alors qu'elle sort aller à la poste, et il ne se fait pas connaître tout de suite, c'est-à-dire c'est un cavalier qui surgit dans la nuit et qui tombe, qui glisse sur une plaque de glace, et il l'interroge, il comprend qu'elle est la gouvernante qui travaille chez lui, elle ne le sait pas, et c'est en rentrant qu'elle va découvrir que le maître est arrivé, ce maître dont on lui a parlé, dont on lui a dit qu'il était assez ombrageux, despotique, et se met en place à ce moment-là une relation assez étrange et assez inédite, dans laquelle Rochester s'intéresse, donne des signes assez manifestes qu'il s'intéresse à elle, mais des signes peu clairs, il la rudoie aussi, il la renvoie à son insignifiance, il y a un écart énorme entre eux, un écart d'âge, c'est un homme plus âgé, un écart d'expérience, il a vécu, il a été marié, ça on ne le sait pas, etc. Et il y a un secret, il y a une espèce de il y a des bruits mystérieux dans le château, des cris, etc. Et qui constitue un mystère qui redouble le mystère de ce que ressent Rochester.
Et oui, parce qu'il a été marié, mais peut-être l'est-il encore. Et c'est bien cela que le roman permet de découvrir. Il y a donc une question de domination, en fait, sur tous les points de vue de Rochester sur la jeune fille Jenner. Domination qui va, au fur et à mesure du roman, ou plutôt, disons, à la fin du roman, dans un grand retournement de situation, eh bien, soit s'annuler, soit même éventuellement se retourner, Dominique Barberis.
Oui, et cette domination s'inscrit dans une formulation qui est finalement, je pense, un coup de génie dans le roman. Il est désigné Jenner l'appelle son maître. Il est le maître. Et c'est vrai que ce mot maître peut référer à la fois au pouvoir qui est celui d'un châtelain, qui l'emploie, qui est un notable, peut référer à la différence d'âge. il l'assume vis-à-vis d'elle d'une certaine manière, il la prend un peu sous sa protection, un rôle pédagogique, il lui raconte sa vie et l'essentiel des conversations consiste à lui faire prendre conscience qu'elle n'a pas vécu le quart de ce qu'il a vécu lui-même, qu'elle ne connaît rien à la vie. Et en même temps, on voit progressivement glisser le mot de maître jusqu'à, on voit bien que ce mot peut désigner la fascination amoureuse, il est le maître dont elle est l'esclave, au fond, et c'est d'autant plus vraisemblable que on sait, peu ou prou, que Rochester est inspiré par un professeur, le directeur de l'école que Charlotte a fréquenté avec ses sœurs à Bruxelles, et que, au fond, cette dimension pédagogique, cette relation inégale, existait peut-être entre elle et le modèle probable. L'un des inspirateurs, probablement, de Rochester. Et c'est vrai, vous m'avez posé la question et je n'y ai pas répondu, c'est vrai qu'à la fin, lorsque Rochester, évidemment, au terme de péripéties nombreuses, est mutilé, il est aveugle, il a essayé de sauver cette femme qu'il cachait dans le château de l'incendie et lui-même,
qui était donc sa femme, hein.
Voilà, qui était sa femme, a perdu la vue. Et donc, du coup, lorsque Jenner le retrouve, c'est un homme qui ne se conduit pas lui-même, c'est un invalide. Et donc, la relation, d'une certaine manière, s'est inversée. C'est elle qui va lui servir de soutien, même si à la fin, il y a une petite lueur d'espoir. Voilà, puisqu'il semble recouvrer un petit peu la
vue. Quel vous semble être le point de vue de Charlotte sur ce personnage de Rochester ?
Alors, je crois que c'est une fascination, c'est le roman d'une fascination. Je crois qu'elle le place au centre du roman comme une espèce d'objet fascinant, quasi fantasmatique, puisqu'elle dit à un moment, vous-même, monsieur, le personnage de Jane, dit vous-même, vous n'existez pas, vous n'êtes pas autre chose qu'un rêve. C'est aussi une consolation, une revanche qu'elle s'offre. On le voit très bien quand on lit, et même si elles sont très maigres, il en reste très très peu, les quelques lettres qu'elle a envoyées à Égée, dans lesquelles, retournée à Haworth, elle le somme de lui envoyer, de lui répondre, elle attend un signe, et elle écrit des pages, en français d'ailleurs, qui sont très belles, et dans lesquelles on reconnaît la matrice de certaines scènes du roman, c'est-à-dire il y a une espèce de lamento très douloureux, de l'absence, mais voilà, donc elle s'offre une espèce de revanche romanesque, c'est-à-dire elle construit un personnage dont probablement la stature excède de beaucoup celle du pédagogue qu'elle a connu, et qui en même temps va l'aimer d'une manière terrible, alors que Égée n'a pas répondu à ses lettres.
Je l'ai lu, j'étais vraiment très jeune, je pense que je devais avoir 10 ans. Je me suis aperçue en le relisant, presque les phrases que je lisais, je l'ai relu il y a 15 ans, hein, pas plus, les phrases que je relisais, déjà elles se formaient avant même de les avoir lues. C'est-à-dire que je reconnaissais le texte complètement. Et en le lisant, j'étais tout à fait effarée parce que je m'apercevais que c'est un roman à la première personne. Hein. Jane utilise le jeu et elle s'interroge sur plein de sujets. Or, ce sont ces interrogations que j'aurais moi-même sur le fait de la liberté, de dépendre d'un homme, puisqu'elle est amoureuse de Monsieur Rochester, etc. Et je me suis dit, mais c'est assez fou de s'en rendre compte à quel point un livre lu à 10 ans peut avoir, au fond, servi de morale. Et bien sûr, une autre morale que celle reçue dans mon pensionnat. Comme moi aussi.
Oui.
Donc, c'est de réfléchir par soi-même.
C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez. Nous sommes avec Dominique Barberis pour parler de Charlotte Brontë. Vous avez reconnu cette voix, Dominique Barberis ?
Mais vous l'avez identifiée, oui, Annie Ernaux. Ouais. Et je crois que ce qu'elle dit, effectivement, est très juste. Ce qu'elle dit en particulier de la liberté, c'est un roman qui est traversé par une recherche de liberté, une tentative d'échapper à toute forme d'asservissement. Et c'est également... et c'est ce qui rend Charlotte si sympathique, enfin Charlotte et Jane, le personnage qu'elle crée, si sympathique. Il y a une espèce d'intégrité chez elle, c'est-à-dire qu'elle refuse tout compromis et elle cherche la voie juste, elle cherche une espèce d'accord avec sa conscience, pas du tout dans le sens de la convention et d'une morale qui lui serait imposée de l'extérieur, mais dans le sens d'un accord profond de son être avec la vie qu'elle va mener et les paroles qu'elle va tenir. Et ça se voit chez l'enfant, quand elle a des conversations avec sa tante, elle a des espèces de moments de révolte dans lesquels tout à coup se fait jour la vérité. Et elle dit à sa tante, cette petite fille dit à sa tante qui la maltraite, je ne vous appellerai pas ma tante, je ne vous aime pas. Ce qui scandalise et en même temps déstabilise beaucoup la tante. Et de la même manière, elle va dire à ce pasteur qui l'a recueillie, qui lui a fait du bien d'une certaine manière, mais qui est un homme extrêmement rigide et qui peut représenter une certaine forme d'excès dans la pratique religieuse, et qui lui demande de l'épouser, mais pas du tout parce qu'il l'aime, mais parce qu'elle ferait une bonne femme de missionnaire, et qu'au fond, il lui dit ce serait sa vocation. Elle lui dit, de la même manière, je ne vous aime pas. Mmh. Et il y a cette espèce comme ça de lucidité très très grande aussi.
Et qui peut rejoindre, dans les thématiques que vous évoquez, le livre de Emily Brontë, Léo de Hurlevent, dans cette fidélité à soi-même et cette volonté de ne pas suivre les règles de la société.
Oui, oui, les règles communes. D'ailleurs, alors on peut avoir l'impression peut-être que Charlotte se plie davantage, en tout cas dans l'écriture du roman, dans sa construction du roman, aux règles communes. Mais en réalité, si on regarde bien, rien ne se passe dans ce roman suivant les règles communes. C'est très frappant dans l'épisode de Sandfield, c'est-à-dire les conversations qui vont opposer Rochester à Jane ne font que ressembler à des conversations normales. Et c'est ce qui frappe quand on relit...
De la sous-conversation.
Voilà, j'ai parlé de sous-conversation, ce qui est un concept un petit peu contemporain, un petit peu trop contemporain. Mais il va sans dire que Rochester laisse entendre un certain nombre de choses, et en particulier quand il se confie à Jane... Il lui pose la question morale, il lui dit d'une certaine manière, que pensez-vous d'un homme, que devrait faire un homme qui tout à coup voit à sa portée une source d'eau fraîche, une occasion de régénération, etc. Il est évident qu'il parle de lui. Il lui pose la question et elle lui répond et il l'écoute, instaurant avec elle une relation assez inédite. Et tout ça se passe alors que, au fond, elle est très libre avec lui dans le château. Mrs. Fairfax est à peine là, il y a la petite Adèle. Et ils se rencontrent sans arrêt. Il y a une espèce de proximité un peu dangereuse. Hein, je dis quelque part que le loup est avec la brebis, mais qui rend l'épisode de Sandfield totalement inédit, hein, et très voluptueux aussi à la lecture.
Alors il y a un enjeu aussi, Dominique Barberis, pour cette jeune fille, ce personnage de Jane Eyre, c'est son physique. Elle a beaucoup de mal avec son visage, elle se compare à d'autres femmes qu'elle juge bien plus belles qu'elle. Ce sont des blessures profondes et c'est un thème important du roman.
C'est un thème très important du roman, c'est une de ses originalités. Dans le roman, traditionnellement, l'héroïne est belle, séduisante, et si elle séduit éventuellement le châtelain, c'est parce qu'elle est séduisante. Or, Charlotte, et je pense qu'elle avait conscience de cette originalité, choisit une héroïne qui n'est pas belle. Et je crois que ça ne joue pas peu dans la possibilité d'adhésion aussi des lectrices, parce que cette question est posée tout au long du roman et on sent que c'est une blessure, parce que ça revient de manière obsessionnelle à travers d'autres figures de femmes auxquelles Jane se compare. Hein, il y a la belle Georgiana, il y a Blanche Ingram que Rochester agite comme ça, comme sa possible fiancée. Il y a à la fin du texte la belle Rosamund dont le pasteur s'éprend. C'est-à-dire que ce qui lui est refusé, ce qu'elle pense qui lui est refusé, c'est le fait de séduire comme ça de manière voilà facile. Mmh. Et cette blessure court tout au long du roman,
y compris mais... à la fin où elle finalement domine au moins symboliquement Rochester, qui l'a redemandé en mariage. Vous pensez qu'elle ne...
Alors,
cette blessure ne se referme jamais ?
Non, parce que justement, Rochester lui apporte la réparation. Et elle le dit d'ailleurs quand elle est exilée donc dans ce presbytère où elle a été recueillie et où au fond Saint John River lui offre une espèce de parodie. C'est une demande en mariage qui n'est pas motivée par la passion et elle sait très bien qu'ayant quitté volontairement Rochester, elle a quitté le seul homme qui lui proposait la passion, qui était capable de développer une passion. Voilà, malgré son absence de beauté. Mais pour y revenir et à cette capacité d'identification des femmes, je pense qu'elle touche là un des points grâce auxquels les femmes peuvent spontanément s'identifier. Quelle femme n'a pas peur à un moment ou à un autre dans sa vie de n'être pas à la hauteur?
Et Charlotte Brontë, est-ce qu'on a des témoignages disant qu'elle avait cette peur-là aussi en elle?
Alors, moi, il me semble que c'est inscrit si profondément dans le texte qu'on ne peut pas penser que ça ne correspond pas à une blessure réelle. Maintenant, tout ça est très subjectif. Voilà, chacun se vit à partir de réalités fantasmées.
La compagnie des auteurs. Mathieu Garrigou-Lagrange.
Dominique Barberis, on va poursuivre ensemble cette conversation sur Jane Eyre, mais pour l'heure, c'est le moment de marquer une pause et d'aller jeter un œil au sommaire des revues littéraires, et en l'occurrence aujourd'hui, au sommaire de la Nouvelle Revue Française. C'est évidemment avec vous, Michel Crépusson, directeur. Bonjour.
Bonjour.
La NRF qui s'ouvre sur votre éditorial, dans lequel vous diagnostiquez la véritable fin du 19e siècle. Qu'entendez-vous par là?
Oui, c'est magistral.
Oui, mais c'est une belle entrée en matière.
Oui, oui. Non, j'ai essayé simplement d'identifier l'atmosphère politique et sociétale que nous vivons aujourd'hui, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Je fais allusion à l'élection de Donald Trump en Amérique et aussi à ce à quoi nous assistons en France, au-delà des affaires. Je crois vraiment à une sorte d'écroulement de toute une tradition politique, aussi bien à gauche, avec le socialisme, que à droite, avec une tradition de culture politique libérale. Et alors, il me semble que nous sommes dans ce moment où tout cela est en train de se disloquer.
Quelle analogie avec le 19e siècle ?
L'analogie avec le 19e siècle, c'est que le 19e siècle a été le grand siècle des grands mots. C'était le siècle par lequel on pouvait, à travers le langage et à travers une certaine rhétorique poétique, je pense à Victor Hugo, par exemple, un des emblèmes de ce moment-là, on pouvait exprimer une vérité de la société humaine, évoquer son avenir, son futur. Et tout cela, je crois, est en train de s'effondrer. Et la pratique incessante par le président américain du tweet m'apparaît aussi comme une sortie du langage, littéralement. Enfin, c'est un peu en pensant à lui que j'ai l'idée d'évoquer une vraie fin du 19e siècle m'est venue. C'est d'assister à un homme qui dispose d'un pouvoir colossal sortir littéralement du langage dans lequel s'exprimait jusque-là le discours politique.
Heureusement, il reste la littérature et c'est pour cette raison que vous avez été interviewé le grand Jean-Yves Tadié sur Proust. Pourquoi l'interroger maintenant sur Proust?
Tout simplement parce que Jean-Yves Tadié a été à l'origine récemment d'une... d'un, comment dire, une reconstitution d'un jeu d'épreuves. Le mot m'échappe.
Un facsimilé.
Des épreuves du côté de chez Swann, corrigées par Proust, naturellement, à la paperole près. C'est vraiment un travail d'artisan extraordinaire. Et on voit Proust au travail. Et c'était l'occasion de faire un peu le point avec Jean-Yves Tadié sur ce qu'il en est de Proust aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'on a évolué un peu par rapport à la perception qu'on a de lui? Souvent vu comme un personnage sans illusion sur la nature humaine.
Alors que Tadié le voit comme un optimiste.
Et Tadié le voit, oui, il emploie le mot d'optimiste en évoquant une phrase de Proust que je n'ai pas exactement en mémoire, mais où Proust dit dans les situations de blocage et d'opacité complète, on peut toujours l'intelligence peut percer un trou. Et c'est cela qui lui faisait employer le mot d'optimisme. Et j'aime bien ce parti pris d'opposer à une image finalement maintenant assez convenue d'un Proust désillusionné qui vous dit je pleure non pas parce que vous en allez, mais parce que je sais que je vais vous oublier, qui sont des phrases terribles et qui restent absolument vraies, enfin qui ont une puissance de percussion terrible. Mais il y a aussi cette formidable puissance qu'il y a chez Proust, qui d'ailleurs enfin saute aux yeux quand on entre dans son monde, et qui est quand même une des, peut-être pratiquement la seule grande œuvre du XXe siècle à avoir vraiment bouclé son affaire.
Enfin, c'est une œuvre terminée.
C'est une œuvre terminée, et c'est peut-être la seule.
Tadié le dit bien dans cet entretien qui est donc à retrouver dans le numéro actuellement en librairie de la Nouvelle Revue Française. Merci Michel Crépu.
Merci à vous.
À bientôt. La suite de la Compagnie des auteurs sur France Culture. Après Les Hauts de Hurlevent, hier, nous nous penchons sur le deuxième grand livre de la fratrie Brontë, à savoir le roman Jane Eyre de Charlotte Brontë. Et nous retournons écouter ce que le professeur Las Vernias en disait en 1966.
Le premier récit d'amour en prose qui ait consolidé le romantisme dans la littérature anglaise. Le romantisme anglais. C'était avant Jane Eyre, épanoui seulement dans la poésie. Wordsworth, Coleridge, Shelley, Byron, Keats l'avaient illustré magnifiquement. Mais vers le milieu du siècle, leur vogue était passée. Le romantisme, avec eux et comme eux, semblait périmé. Or voici qu'il allait renaître de ses cendres grâce à la prose passionnée de Charlotte Brontë. Comme rien d'humain n'est jamais entièrement personnel, il faut se retourner vers le cadre et le milieu. Si l'on veut saisir en quoi Charlotte Brontë a été prédestinée à faire triompher le romantisme dans la littérature sentimentale en Angleterre. La vérité est que le presbytère de Haworth, où elle a vécu la plupart du temps repliée sur elle-même, était idéalement fait pour stimuler l'invention. Une bâtisse trapue, rectangulaire, enfoncée dans la colline presque au sommet de la lande, avec son jardin abandonné et son régime spartiate. Mais pour les enfants Brontë, Haworth, c'est la chaleur du nid.
Professeur Las Vernias qui parlait du décor en réalité de ce livre, comme d'ailleurs de tous les livres des Brontë. Vous vous êtes intéressé vous aussi à cette notion de décor dans les romans des Brontë. Comment les voyez-vous et quelle est leur importance, Dominique Barberis?
Alors, je me suis surtout intéressée au décor de Jane Eyre. Alors, il y en a plusieurs d'ailleurs. Puisque on se déplace de la maison de la tante à l'institution, à l'orphelinat de Lowood, puis à Thornfield, puis à un presbytère dans la lande. auquel Jane parvient au terme d'une fuite où elle a dû manger de la nourriture de cochon. Elle est totalement démunie et qui ressemble un petit peu au presbytère d'Haworth, probablement par sa petite société,
avec
cette fratrie, il y a deux sœurs et un frère, enfin il y a beaucoup de proximité. Donc on traverse des décors différents, mais ce qui est frappant, c'est qu'il y a une sorte de continuum d'ordre poétique entre ces décors, c'est-à-dire que le côté réaliste, on traverse des lieux, etc., un château comme Thornfield, il y en a, avec des créneaux, il y en a dans la campagne anglaise, mais tous ces décors ont pour propriété d'ouvrir sur une espèce d'espace hanté, avec une espèce de glissement, ce glissement coïncidant très souvent avec le passage du jour à la nuit. Et on peut suivre cette espèce d'épanchement du rêve dans la réalité romanesque à travers ce thème nocturne qui court à travers Jane Eyre et qui associe, qui donne une espèce d'unité merveilleuse d'ailleurs et très très réussie à l'ensemble du décor.
Et ça se voit en particulier donc à Thornfield qui est un lieu, il faut que les auditeurs s'imaginent, un château typique du nord de l'Angleterre, avec effectivement, vous l'évoquez, ces créneaux.
Entourés de freux, voilà.
Et ces pièces vides. Alors, il faut dire également que quand on s'y promène, on ne peut s'empêcher d'avoir un petit frisson dans le dos. Il y a donc dans ce décor-là quelque chose à la fois de diurne et de nocturne que vous analysez. Quelle est finalement pour le personnage de Jane Eyre la signification de ce château un peu hanté, un peu enchanté ?
Alors, il va sans dire que c'est une espèce de figuration probablement de la conscience ou de l'inconscient. Hein. Il y a quelque chose, cette femme enfermée, on peut faire une lecture un peu psychanalytique aussi, hein. Cette femme enfermée est une espèce, peut-être lue comme une espèce de double noir. C'est un élément important de l'intrigue, puisque c'est ce qui va rendre le mariage impossible. Et là encore, c'est une scène célèbre du roman anglais. Hein. Le couple de Rochester et de Jane se rend pour la cérémonie du mariage et quelqu'un arrête le mariage, alors que ça n'arrive jamais, en disant il y a une impossibilité à ce mariage, il y a un obstacle. Donc c'est l'occasion d'une péripétie dans le roman, mais ça va chercher des choses beaucoup plus profondes, parce que ça nous dit des choses. La structuration même du château construit autour de cette chambre qui garde le secret de Rochester, c'est la configuration au fond du château de Barbe Bleue, hein, dans laquelle Barbe Bleue, et d'ailleurs l'image de Barbe Bleue appliquée à Rochester se trouve dans le texte. Hein, et ce secret est un secret très inquiétant pour les femmes. Et il y a quelque chose d'assez frappant qui est que effectivement, au fur et à mesure, d'ailleurs, et là, Jane ne le sait pas encore, où on s'approche du mariage, c'est-à-dire après l'aveu, lorsque Rochester et Jane s'avouent mutuellement leurs sentiments, on glisse dans une période qui devrait être une période très heureuse et où les signes négatifs, les pressentiments se multiplient et ils sont le signe d'une peur qui probablement, et à mon sens, va au-delà de simplement le signal de ce qui va arriver, mais qui renvoie à une peur très très obscure, hein, qui est probablement la peur de l'homme qui s'inscrit dans le texte.
Et alors vous dites que c'est un roman très inquiétant pour les femmes en particulier. Est-ce que vous avez le sentiment que Charlotte Brontë en appelle au lecteur sur cette question en particulier des femmes et qu'elle demande au lecteur de prendre position sur cette question de la place des femmes dans cette Angleterre-là?
Il me semble que ce serait probablement un peu anachronique. Je pense que c'est une défense, alors évidemment, qui au-delà de sa personne, au-delà de la personne de son héroïne, c'est un plaidoyer pour les femmes, c'est vrai, mais la voir comme revendiquant la liberté pour les femmes, Je pense que c'est un petit peu anachronique. Simplement, à travers ce parcours, à travers ce rêve de libération, à travers ce sentiment d'étouffer, ce refus de se soumettre dès lors que c'est injuste, que manifeste son personnage. Oui, voilà, c'est par là, c'est à travers son œuvre.
Donc on ne peut pas parler de réalisme, on ne peut pas parler de roman social à aucun moment.
Alors, il y a des traits, tout de même. Je pense que la description... Mais c'est un réalisme qui est toujours déformé par le rêve, qui est du côté de l'excès. Il va sans dire qu'il devait y avoir, et on le voit chez Dickens, des établissements où on malmenait les orphelins, où on ne leur donnait pas beaucoup à manger, où on... voilà. Et Lowood est de cet ordre-là. Et les sœurs Brontë ont été envoyées dans un établissement qui inspire un petit peu ça. Donc il y a une part de réalisme. La situation des gouvernantes était également une situation peu enviable. Elles étaient des sortes de domestiques sans avoir tout de même, en étant des femmes cultivées, elles avaient une position assez fausse dans les familles. Les sœurs Brontë en ont souffert. Donc ça dit des choses réelles sur ce qu'était la condition de la femme. Mais la déformation tire vers autre chose, vers une espèce de dimension nocturne, onirique, qui d'ailleurs, dont on peut dire qu'elle sert aussi probablement ce propos-là.
Mais alors, ce réalisme qui n'en est pas un tient peut-être au fait que Charlotte Brontë, et on l'a beaucoup dit, hein, tout comme sa sœur Émilie, un peu moins que sa sœur Émilie d'ailleurs, a finalement assez peu quitté Haworth, et qu'elle avait donc une expérience assez limitée des choses qu'elle décrivait dans ses romans. Vous dites qu'elle a une expérience un peu courte du monde.
Alors, un peu courte, oui, pour la raison que vous indiquez. Elle est fort peu sortie, sauf quand elle est allée à Bruxelles. Elle n'a probablement presque aucune expérience des hommes, sauf la proximité avec ce frère Branwell, dont on peut dire qu'on le reconnaît un petit peu aussi chez Émilie, certainement, dans le roman d'Émilie, mais peut-être qu'il prête certains de ses traits à Rochester. Mais tout ça est transmué par le rêve. Elle a beaucoup lu.
Et la Bible en particulier.
Elle a beaucoup lu la Bible, et la lecture de la Bible informe beaucoup la langue du texte à travers des citations, à travers des images, fort belles d'ailleurs, à travers même un certain discours de révolte, hein, lorsqu'elle se révolte au fond contre ce qu'elle croit être l'indifférence de Rochester et le machiavélisme avec lequel il la menace d'en épouser une autre. Elle utilise ou elle paraphrase l'évangile du mauvais riche, et c'est d'autant plus frappant qu'elle fait la même chose, que Charlotte fait la même chose dans les lettres à Constantin Héger. On a l'impression que c'est exactement le même moule, hein, c'est le moule dont est sorti le roman, et elle lui dit on ne peut pas retirer, si on retire aux pauvres, et elle s'identifie aux pauvres, les miettes qui tombent de la table, ils meurent de faim. Et elle reproche à Rochester symboliquement de la faire mourir de faim. Donc il y a une espèce de transformation. Voilà, c'est la fin amoureuse.
Amoureuse, voilà, c'est ça.
C'est-à-dire qu'elle transmue ces images et elle les applique de manière très belle, très inspirée d'ailleurs au discours amoureux.
J'ai une âme comme vous, crie-t-elle à...
Oui, elle lui dit j'ai une âme comme vous, et elle lui dit nous sommes égaux. Nous sommes égaux. Au moment où, poussée dans ses retranchements et de manière fort peu conventionnelle, au fond, c'est elle qui prend l'initiative de l'aveu en lui disant « je vais souffrir » et « nous sommes égaux devant Dieu », dit-elle. On a l'impression que cette lecture de la Bible informe un besoin de justice qu'elle applique au domaine amoureux. Hein, c'est-à-dire qu'elle exige la justice et qu'elle demande même cette justice. Justice-là, même pour une femme comme elle, pauvre et qui n'est pas très séduisante, d'avoir le droit d'être aimée.
Et c'est sans doute ce qui la rend aussi très touchante, en fait, cette revendication pour les miettes d'amour,
voilà.
Dominique Barberis.
Oui, elle est très, très, très intègre, très intègre, très authentique.
Un matin, je commençais à dessiner un visage. De quel genre de visage s'agirait-il ? Je l'ignorais, je ne m'en souciais pas. Je pris un crayon noir, tendre, lui donnai une pointe épaisse et me mis à l'ouvrage. J'ai bientôt tracé sur le papier un grand front saillant et une esquisse carrée du bas d'un visage. Ce contour me plut. Mes doigts continuèrent fiévreusement à en compléter les traits. À la base de ce front, il fallait placer de forts sourcils bien marqués à l'horizontale. Puis vint naturellement un nez bien dessiné, à l'arête droite, aux narines pleines. Ensuite une bouche mobile et surtout pas mince. Un menton ferme, nettement marqué en son milieu par une fossette. Bien sûr, il fallait des favoris noirs et des cheveux de jais ramenés sur les tempes et ondulés au-dessus du front. Et maintenant, les yeux. Je les avais laissés pour la fin car c'était ceux qui exigeaient le plus de soins. Je les fis grands. Puis j'accentuais les ombres pour que les blancs parussent plus éclatants. Voilà, j'avais le visage d'un ami sous les yeux. Est-ce le portrait d'une connaissance ? Demanda Elisa qui s'était approchée discrètement. Je répondis que c'était seulement une tête imaginaire et je le glissais prestement sous les autres feuilles. C'était bien évidemment un mensonge. C'était en fait une image très fidèle de Mr. Rochester.
Et voilà, Jane Eyre qui s'applique à dessiner le visage de celui qu'elle aime et qui se trouve être évidemment Edward Fairfax Rochester. Alors, on va terminer cette émission sur lui, parce que c'est quand même évidemment le personnage le plus fascinant du roman, derrière peut-être Jane Eyre, quoique c'est même pas tout à fait sûr. Il est fascinant parce que il est un symbole du héros romantique et qu'il est la projection d'un fantasme, dites-vous Dominique Barberis. Qu'est-ce qui en particulier vous retient chez lui ?
Alors ben, précisément, c'est cette réussite qui fait qu'il est à la fois plausible.
Ça veut dire quoi, plausible ?
Alors plausible, je veux dire qu'il existe concrètement dans la réalité, il existe physiquement.
Il a une étonnante présence charnelle.
Voilà, elle le décrit. On a vu qu'elle le dessine, et elle dessine souvent d'ailleurs, ça rentre un petit peu dans sa manière d'appréhender le réel. Il a des cheveux noirs, frisés, c'est un homme trapu, il est très large d'épaule, il a des mains musclées, il a un teint olivâtre, il fume le cigare, c'est un cavalier, il a une voix de basse, enfin on sait beaucoup de choses.
C'est un peu l'homme typique quand même, enfin la masculinité.
C'est pas un homme apollinien. Beau. Il n'a pas la beauté canonique. Et d'ailleurs,
non, mais il a la virilité, disons.
Voilà, exactement. C'est vrai. Il a tous les traits, une force physique peu commune. Quand il maîtrise la folle, la démente, il arrive à la maîtriser. Donc, il y a cet aspect-là. C'est au point, d'ailleurs, que même dans le roman, il y a cette scène que je trouve très fascinante. À la fin, quand elle revient et qu'elle le retrouve aveugle, où elle le touche. Elle s'assoit sur ses genoux et elle lui démêle les cheveux. On s'approche jusqu'à le toucher et en même temps, il échappe. Il est infigurable parce que toutes les comparaisons qui nous sont données le renvoient au mythe. Il est comparé à un aigle, il est comparé à Vulcain, à Samson, il est comparé à une créature comme une espèce de gnome, de cavalier qui erre sur la lande. Enfin, il y a une dimension par laquelle on ne peut pas se le représenter, ce qui fait sa dimension fascinante. C'est-à-dire qu'il est comme toujours devant nous, il échappe à la représentation. Et c'est ce qui est très fort dans le roman.
Puis il a tous les talents, il chante aussi, c'est ça qui le rend charnel en plus du reste.
Alors, il a cette qualité dont Flaubert, d'ailleurs, lui-même disait que c'était une qualité qui agissait beaucoup sur les femmes. Cette voix de basse qui, par laquelle, effectivement, il séduit. Et il a aussi une extrême vitalité. C'est ce qui frappe. On le voit monter à cheval, jouer la comédie, chanter, se battre avec la folle, certes. Mais il a une espèce de présence très magnétique qui le place vraiment au centre du roman, de l'imaginaire.
Et c'est peut-être pour cette raison que Charlotte Brontë décide de lui faire perdre la vue à la fin du roman pour analyser ce que cet homme, qui semble n'avoir aucune limite physique, devient à partir du moment où il perd l'usage de la vue, c'est-à-dire en grande partie ses capacités physiques.
Oui, alors je suis pas sûre que ce soit dans ce but-là. Il y a aussi une thématique de la rédemption. C'est un pécheur. Hein, il expie à travers cette cécité. C'est un homme de flamme, hein, c'est un homme autour duquel s'enroule comme ça, de manière très symbolique, le thème du feu. C'est un homme du feu, il a vécu aux Antilles, où il décrit des couchers de soleil aux Antilles. C'est un homme qui, la folle, met le feu à son lit une nuit et Jane le découvre enveloppé d'un cercle de flammes, ce qui est une scène vraiment mythique, semi-mythique.
Et c'est un parfait Adam.
Et c'est un parfait Adam.
C'est sur ces mots de parfait Adam que nous pouvons tous méditer, chacun de notre côté, que nous nous disons au revoir, Dominique Barveris. Merci beaucoup d'être venu nous parler de Jane Eyre, de Charlotte Brontë, dont vous avez signé la préface pour son édition en poche. C'est chez Folio. Demain, nous terminerons notre semaine avec le spécialiste de littérature, mais aussi de cinéma, qui est Raymond Bellour. Il a édité les textes de jeunesse des membres de la famille Brontë. Il nous racontera tout cela. Ce sera aussi l'occasion d'évoquer donc les adaptations cinématographiques des romans des Brontë. Mais tout de suite, sur France Culture, c'est le moment de retrouver la poésie avec Jacques Bonnafé.
Bonjour, attention, ça secoue. Difficulté de trouver les commandes, dire à mes doigts et mains, faites ceci, faites cela. Difficulté à articuler, maîtriser les volcans. Mais un jour, lettre à lettre, Hélène Babouillec s'est mise à parler par l'écriture. Nous rentrons dans un corps très agité, celui de Babouillec presque en pleine crise. Bling blang, tout s'agite, tout indicateur, décodeur, unilatéral, brouille l'axe central surfant sur mon système nerveux. J'implose, retrait des troupes, retour à la case départ, moi. Dedans, exploration tournée vers l'intérieur, environnement sans secret dans mes codes d'accès. Coffre ouvert. Booster la mécanique avec 1000 lampes saturées mobilise l'énergie. J'accuse mon monologue en forme de dialogue avec toi, sans toi, en question à mes réponses. Un autre poème. Dans la partie Forbidden to Sporgersi, on pourrait apercevoir le bout du tunnel, croire dans le tout social éduqué suivant des règles communes pour ne pas faire dérailler le train, nettoyer avec soin chaque dérailleur de la grande mécanique pour éviter les corps étrangers qui perturbent le système. Schlum baby schlum, schlum baby schlum, schlum baby schlum, nursery à tétine monobloc pour corps préfabriqué, schlum baby schlum et ça roule. Tous sur les rails. J'aime à penser que tout confondu, même partiellement otage de nos émotions, nous traversons le désert humain domestiqué par lui-même en devenant nous-mêmes. Raison et acte dans la douleur du silence. Perdre notre identité pendant le temps paradisiaque d'un jour de fête nettoie à jamais l'idée de la confiance et du partage. C'était en lettres majuscules, on pouvait lire mon prénom, L, N. J'étais caché derrière l'éternel autisme de ma mère, Big Bang, qui se cogne dans tous les angles morts de la vie. On aurait aimé croire ou imaginer l'ouverture soudaine, douce ode nonchalante, temps immobilisé, knokle-zout en plein été. Libertine destinée, se promener nue, déchargée du bagage culturel et bohémien dans l'âme, nous refusons les limites barbelées pour moutons récalcitrants. L'épanouissement temporise la chute verticale du cerveau reptilien. Belle adaptation de notre folie cérébrale, la joie bouture successivement tous les ressorts moelleux. Sortons les handicapés dans la rue et faisons une grande fresque vivante. Nous ne sommes pas des anges, la preuve, nous n'avons pas deux ailes pour fuir ce monde hostile. Au fait, cela fait quelques lignes que nous avons quitté l'acte 1. L'acte 2 se prononce d'une seule respiration, être autiste. Ou plus lisiblement, l'autisme visité par une autiste.
Merci Jacques Bonafé, à demain. Et dans quelques instants sur France Culture, vous avez rendez-vous avec la série musicale.